Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Merci aussi de m'avoir proposé donc, de discuter l'ouvrage. Donc, c'est la première fois que je discute un ouvrage, donc je ne sais pas si je vais bien répondre au canon, mais merci en tout cas. Peut-être pour commencer, je propose juste d'expliciter un peu ce que moi j'ai compris, comme ça, voilà. Au final, cet ouvrage, j'ai l'impression que c'est aussi d'une manière... Enfin, c'est un procès en scientificité que vous faites sur cet usage du terme de bobo, et que la notion de bobo, reprise par des non-sociologues, finalement, ça impose une vision un peu pacifiée du monde social. Et vous leur reprochez d'ailleurs aussi de ne pas se saisir de concepts issus des sciences sociales comme celui de gentrification. Et moi, je trouve ça en tout cas intéressant de partir comme ça d'une notion de sens commun, parce que ça permet aussi de questionner l'apport spécifique d'une analyse sociologique. Et en l'occurrence, ici, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que la notion de bobo, elle écrase la dimension processuelle, donc la dimension des effets dans le temps d'une catégorie de personnes. Et quand on parle de gentrifieur, comme vous le disiez dans les débats à la fin de l'ouvrage, ça permet de rendre la dimension processuelle et d'articuler les trajectoires résidentielles de personnes avec le contexte socio-historique de développement d'un quartier. Donc bon, bah, moi j'ai trouvé ça passionnant en tant que néophyte sur le sujet. Si j'ai bien compris, donc bobo, ça a deux côtés dérangeants principaux pour les sociologues de l'urbain. D'une part, ça efface le travail de gentrification dont parle Anaïs Collet, pour parler simplement d'un style de vie susceptible d'être moqué. Et deuxième chose, les bobos deviennent responsables un peu pour toute la gentrification, ce que vous disiez tout à l'heure, ça fait écran aux structures qui rendent aussi possibles les transformations douces ou brutales de quartiers entiers. Ici, on a, enfin pas loin d'ici à Marseille, on a Euromed par exemple, mais aussi l'action des bailleurs sociaux ou des grands projets de rénovation urbaine. Voilà, donc au final, pour parler un peu en termes de sociologie, au-delà de l'effet fourre-tout et de la différenciation entre bourgeois et bourgeois paupérisés, ce qui gêne les sociologues et les géographes dans la notion de bobo dans l'ouvrage, c'est l'invisibilisation de la détention de capitaux pour se concentrer sur une vision en termes de style de vie, de fréquentation de lieux, et donc au final mettre en valeur l'individu et le choix rationnel plutôt que les dispositions et les capitaux. Voilà, moi, c'est ce que j'ai, et les ressources, c'est ce que j'ai compris. Est-ce que du coup la première critique qu'on peut faire, c'est que bobo, ça réduit les caractéristiques sociales de quelqu'un assez, enfin plutôt en préférence de, en termes de consommation. Est-ce que du coup, ce qui gêne prioritairement, c'est le fait de parler de pratiques de consommation plutôt que de disposition? Et est-ce que, enfin voilà, est-ce que c'est ça la critique que vous faites au fond? La deuxième chose, c'est que, donc là, je parlais de gentrifieur à l'instant, mais dans l'ouvrage en même temps, les sociologues et les géographes disent que même si ça permet d'introduire ce côté processuel et l'action concrète des gentrifieurs sur les prix de l'immobilier, ça englobe toutes les catégories sociales. Et notamment, c'est le propos de votre article avec Anaïs Collet sur le Bas-Montreuil et Batignolles, en disant mais finalement, il y a beaucoup de types de gentrifieurs différents. Et du coup, est-ce à dire qu'on ne peut pas trouver un terme pour parler de l'action des particuliers, puisqu'on distinguait l'action des particuliers de l'action des bailleurs sociaux et des projets de rénovation urbaine? Est-ce que, du coup, vous, quelle est votre position, en fait, personnelle sur l'usage du terme de gentrifieur? Alors, ma troisième question, c'est sur la quantification, en fait. Parce que dans le livre, c'est surtout une approche ethnographique, donc qui permet de saisir finement, notamment votre ouvrage, les positionnements des personnes elles-mêmes qui se qualifient de bobos par rapport à cette notion. Mais comment on mesure, en fait, comme je ne connais pas la sociologie urbaine, comment on mesure la gentrification? Est-ce que vous avez des enquêtes pour mesurer ça? Et du coup, quelles variables vous utilisez? Ça ramène à quelle catégorie on prend, quelles variables précises on prend pour mesurer l'effet concret des personnes sur les processus de gentrification? Et ma dernière question, du coup, c'est, vous parliez du contexte de débat national sur l'immigration en 2007. Et moi, je me suis demandé, pendant votre intervention là, si finalement, parce que donc le propos de l'ouvrage, c'est de dire que le terme de bobo écrase les classes sociales. Et du coup, est-ce que bobo, puisqu'on dit que c'est un terme qui est surtout saisi par les personnes qui seraient désignées comme telles, est-ce que les gens qui emploient le terme bobo, en fait, c'est pas aussi une façon de parler de rapport de race, en fait? C'est-à-dire, est-ce que, parce que dans beaucoup de quartiers gentrifiés, il y a des populations blanches et non blanches, et du coup, est-ce qu'en France, le succès du terme, c'est pas aussi une façon de se distinguer, enfin, les gens qui se disent comme bobo, est-ce que c'est pas aussi une façon implicite de se distinguer de ceux qu'on désigne désormais comme immigrés ou descendants d'immigrés dans des quartiers où il peut y avoir une mixité de ce point de vue-là? Et est-ce que vous avez retrouvé ça dans les entretiens ou pas du tout? Voilà. Bonjour, merci.
Merci.
Je vous remercie de ta présence. C'est vraiment un grand plaisir. Je crois que je ne parle pas en mon seul nom. Nous sommes plusieurs à le penser fortement. C'est aussi l'occasion de renouer, on vient de l'entendre avec elle, et bien sûr avec ta présentation, avec la question de la gentrification, hein, qui nous tient aussi à cœur dans ce laboratoire, comme tu le sais, et depuis quelques années. Donc merci beaucoup. Alors moi, je vais revenir sur ta présentation, l'ouvrage, finalement, centre vraiment sur l'usage des catégories en sociologie. Moi, je voudrais revenir sur l'objectif de ce livre qui est vraiment annoncé dès la première page, hein, du livre, c'est-à-dire réfuter la pertinence scientifique de ce terme, en pointant ses effets, ses usages politiques et puis ses effets sociaux, comme on l'a vu en t'écoutant. Alors, votre position à adopter d'emblée est de dire « on l'évacue ». Et là, tu l'as rappelé, pour des arguments divers, parce que les sciences sociales n'ont pas attendu le terme de bobo, qu'il y a d'autres termes pour enquêter sur ce phénomène, notamment toutes les études sur la gentrification, parce que, tu l'as répété à plusieurs reprises, ce terme-là homogénéise des processus qui sont très hétérogènes, très divers. Et puis ce terme de bobo est finalement tellement connoté qu'il semble très difficile à mobiliser en sciences sociales. Et donc, vous en arrivez à cette question qui est posée, encore une fois, très vite dans l'introduction. Le fait qu'un terme s'impose et se banalise dans ses usages sociaux, mais aussi dans ses usages médiatiques, doit-il, in fine, conduire à l'adopter comme concept pertinent? Donc ça, c'est la question que vous posez. Et de mon côté, moi, la question que j'aimerais te poser, c'est la question inverse. Le fait qu'un terme s'impose et se banalise dans les usages sociaux et médiatiques et qu'il soit connoté négativement, suffit-il à l'évacuer comme notion impropre à la sociologie? Alors, à la lecture de ce livre, je me dis qu'il y a quand même des choses à garder et je garderai un petit peu le bébé avant de jeter complètement l'eau du bain. Et il me semble, il y a des choses qui me semblent utiles. Alors, on fera partie peut-être de ton corpus sur la réception scientifique de l'ouvrage.
Bien sûr. Mais...
Hors des polémiques.
C'est enregistré, hein. Je repars avec.
Ce terme-là m'apparaît utile pour au moins trois raisons, et je vais les exposer rapidement. Des propositions et des démonstrations qui sont finalement tirées du livre, hein, et de ton intervention aujourd'hui. D'abord, tu nous l'as dit, il nous permet de questionner le comment et qui crée le bobo. Autrement dit, cela permet de mettre la focale sur ces professionnels de la représentation que sont les journalistes, que sont les acteurs politiques, que sont les intellectuels. Et on le sait, ce sont ces professionnels de la représentation du monde social qui occupent une place vraiment centrale dans la production des groupes qu'ils désignent et dans leur légitimation. Donc, voilà. Bref, premier point, travailler sur les représentations de ces bobos fortement médiatisées, eh bien, tu l'as dit, cela permet de voir les enjeux de lutte, de pouvoir entre ces acteurs qui les parlent. Et de voir aussi, à travers ces représentations dominantes, les mécanismes d'étiquetage, fussent-ils négatifs, et les enjeux de crédibilisation, ou au contraire, comme on le voit ici dans cette catégorie, de décrédibilisation d'un groupe social qui, en l'occurrence, porte des valeurs de gauche, se mobilise politiquement pour une fraction d'entre eux, et le moment venu, peut-être une menace électorale. Donc, premier point, ça nous en dit long quand même sur ces professionnels de la représentation dans ce qu'ils produisent comme groupe qu'ils désignent. Deuxièmement, pourquoi ça me semble utile, et encore une fois je le puise dans l'ouvrage, le livre ne se limite pas au contexte de production politique ou journalistique. Avec l'article dont tu parlais sur Renault, on ouvre aussi, on voit bien l'étendue de sa diffusion, de sa circulation dans un autre cercle, dans une autre sphère, la sphère culturelle et artistique. Et ça a été vraiment une circulation très forte. Et ce que vous montrez aussi, c'est qu'au travers de cette diffusion, de cette circulation, eh bien, il se passe des choses. Et cette diffusion même opère aussi un glissement d'usage de ce terme-là et un glissement de sens. Et de ce point de vue-là, moi, me semble-t-il, prendre en considération cette notion, c'est tout à fait intéressant pour justement montrer les mécanismes qui se mettent en place au cours de la diffusion de la circulation d'un terme et d'une catégorie. Enfin, votre livre montre, troisième point, comment ce terme est repris par les enquêtés eux-mêmes, ces classes moyennes et supérieures des quartiers populaires en bourgeoisie, qui s'auto-désignent, pour certains d'entre elles, comme bobo, comme tu l'as dit, ou qui vont désigner l'autre, un mécanisme connu, comme étant le bobo et pas lui, etc. Donc ça, c'est ce que vous soulignez notamment dans ton article avec Anaïs Collet. Donc, me semble-t-il, à lire le livre, finalement, ce terme, et même c'est ce que vous décrivez dans l'article avec Anaïs Collet, ce terme devient un analyseur, parmi d'autres, de différenciation sociale au sein d'un quartier et au sein de la classe moyenne supérieure des quartiers de la gentrification. Donc, voilà, en montrant les variations, etc. Vous montrez bien, tu l'as dit, ces catégories hétérogènes, etc. Parmi ces catégories, on devine des sous-groupes, tu l'as dit, intellectuels, artistes, cadres des professions libérales, techniciens du spectacle, etc., de la ville, etc. Donc c'est, voilà, ce groupe-là, on voit bien qu'il n'est pas homogène et qu'il se subdivise. Anaïs Collet, que nous avions effectivement écouté quelque temps auparavant sur son livre « Rester bourgeois, les quartiers populaires nouveaux, chantier de la distinction » que tu as cité, Hélène, nous montrait aussi qu'il y avait finalement deux générations qui se dessinaient à travers cette terminologie de bobo. Tu l'as dit, la génération née dans les années 60 et celle née un peu plus tard dans les années 80, qui n'est pas tout à fait la même dans son rapport au quartier, qui n'est pas tout à fait la même dans son rapport aux classes populaires, dans la distance qu'elle peut mettre, qui n'est pas tout à fait la même aussi dans l'engagement politique qu'elle mobilise, les plus jeunes étant plus mobilisés que les plus vieux. Bon, bref, elle montre aussi que ces enquêtés se reconnaissent dans un certain type de bourgeoisie, mais n'aspirent pas à rentrer dans la grande bourgeoisie de l'Ouest parisien. Qui, pour certains d'entre eux, tu l'as dit, ils ne revendiquent pas l'appellation bourgeois, mais se reconnaissent plus facilement dans le terme bohème. Bon, bref, on voit bien que là, se dessinent des sous-groupes et des subdivisions, à mon sens, intéressantes. Et ce qu'il faut retenir à travers vos enquêtes, me semble-t-il, c'est que ce terme bobo est maintenant devenu une catégorie indigène. Dans sa circulation, dans sa médiatisation, dans son succès, etc., il est aujourd'hui une catégorie indigène. Et ce constat de recherche m'inspire deux commentaires. Alors d'abord, il me semble-t-il que ça montre que l'étiquette a été appliquée avec succès, comme dirait Howard Becker. On peut dire donc du bobo ce que dit Becker du Divian. Ce qui fait le bobo, ce n'est pas tant son comportement, mais le fait que la société le désigne en tant que tel. Premier commentaire que m'inspire donc le fait qu'on l'emploie comme catégorie indigène. Et d'autre part, deuxième commentaire, cela pose la question quand même de la place qu'occupe la catégorie indigène dans la démonstration même scientifique. Dire que les bobos n'existent pas en tant que catégorie savante et l'évacuer, me semble-t-il, n'évacue pas pour autant, comme on le voit dans vos enquêtes, la question de la catégorie indigène et de sa considération par le chercheur. Voilà, alors pour terminer, je dirais que la figure du bobo, comme celle de la figure du bof, qu'on lui oppose diamétralement, eh ben moi, elle me paraît assez utile à l'analyse sociologique. Elle a, me semble-t-il, cette catégorie ou ce terme de bourgeois bohème, une certaine vertu, celle d'être un analyseur parmi d'autres de la fragmentation des classes bourgeoises, voire de sa recomposition, qui supposerait donc de revoir nos grilles d'analyse, et parler finalement des bobos scientifiquement, comme vous le faites, hein, même si c'est pour se dire qu'ils n'existent pas, participe d'un intérêt, d'un renouvellement de la classe sociale. Alors voilà, et la question que je me disais, que je me posais in fine, c'était faire un livre sociologique sur une catégorie qui ne l'est pas, n'est-ce pas finalement la rendre sociologique ? Et c'est un petit peu la réception que j'en ai eue, moi, à la lecture de ce livre.
Ok. Merci à vous deux. J'attaque. J'attaque. J'attaque les réponses. Hein. Je suis pas comme ça. Je crois que je vais partir par la deuxième. Ce sera plus simple. Peut-être pas dans un sens. Parce que je pense qu'il y a un petit malentendu, me semble-t-il. J'ai pas l'impression qu'on ait dit des choses différentes l'un et l'autre par rapport à ça, par rapport à ce qui est le contenu de l'ouvrage. C'est-à-dire que je pense qu'il faut. J'ai pas relu pour aujourd'hui précisément l'introduction, mais tout au contraire, on n'évacue pas le terme. Au contraire, on l'évacue. Ben non, on en fait un objet. C'est l'objet du livre.
C'est marqué, hein. On l'évacue.
Non, on l'évacue. Alors, on l'évacue effectivement comme une catégorie d'explication sociologique. D'accord. Voilà. Mais je l'ai dit, y compris là à l'oral, mais c'est écrit dans l'introduction, je suis certain quand même, on n'évacue pas le terme. Et effectivement, on s'en sert comme d'un analyseur d'un certain nombre de choses. Voilà. Et donc tout ce que tu as dit, moi j'ai aucune opposition par rapport à ça. C'est-à-dire que effectivement, je l'ai dit. Alors ça, par contre, c'est pas dans l'intro, mais je l'ai présenté comme ça, et ça correspond aussi quand même à ce qui est dans l'intro. Le mot existe. Le mot existe. Il a des usages sociaux. Le sociologue, il peut analyser cette représentation du monde social, les usages sociaux de cette catégorie, et comprendre effectivement les intérêts, les enjeux qui sont derrière, les formes d'imposition, etc. Ce qui dissimule, et c'est ça, c'est ce que fait ce livre dans différents champs, que ce soit le champ politique, enfin médiatico-politique, culturel, dans le discours commun, qui révèle, qui permet effectivement, à partir de cette entrée-là, de faire apparaître effectivement des divisions à l'intérieur des catégories de gentrifieurs. Voilà. Donc, c'est pas une. Voilà. Ce qui est nié, dans les bobos n'existent pas, d'accord. J'ai dit scientifiquement parlant, comme effectivement une catégorie explicative à la fois des changements sociaux, des hiérarchisations sociales et des transformations urbaines. Voilà. Mais le mot existe, prenons-le au sérieux, je l'ai dit, et l'objet de l'ouvrage, c'est effectivement d'en étudier, encore une fois, ses usages, les usages sociaux de cette catégorie, ce qu'il produit, etc. Donc il n'est pas. Voilà. Alors, par contre, je ne suis pas sûr qu'il y a. Mais ça, voilà, chacun est libre d'en tirer la lecture qu'il veut. Je ne suis pas sûr qu'au terme de l'ouvrage, le terme de bobo est gagné en qualité heuristique. Voilà. Mais
ça pose quand même, encore une fois, l'usage des catégories indigènes.
Oui, mais alors par rapport à ça, enfin bon, peut-être que les approches anthropologiques, sociologiques peuvent différer là-dessus, etc. Mais les catégories indigènes, elles font partie, là aussi, elles font partie du réel. Donc elles sont là aussi justiciables d'une analyse. Après, c'est comment les faire entrer dans l'analyse. Et je reprenais tout à l'heure, et c'était presque une boutade, parce que je peux vous dire que ça me titille depuis un bon moment, ce fameux les quartiers, voilà, on est bien dans une catégorisation indigène, d'accord, à la fois politique, et qui a été reprise ensuite, finalement, pour retourner le stigmate par ceux-là même qui l'habitent. Mais il y a des enjeux extrêmement énormes derrière qui moi, effectivement, en tant que sociologue, me dit qu'il est intéressant de prendre au sérieux, comme pour les bobos, cette catégorie, les quartiers, pour effectivement mettre en évidence tout ce qu'elle dissimule, tous les mécanismes sociaux qui sont derrière. Voilà. Et c'est pas parce que on s'occuperait de cette catégorie comme de celle de Bobo que ce serait dans le sens de lui donner au final une force d'explication sociologique. Voilà. Pour l'instant. Mais on va discuter, je pense, collectivement. Je vais revenir sur les questions de. Les questions de départ, donc d'abord sur le, il n'y a pas que la, comme critiques qui sont adressées à l'usage de la catégorie, le fait que finalement dans l'usage notamment médiatique ou culturel de la catégorie, on est purement sous le registre de la consommation. Donc c'est vrai qu'il y a ça. Hein. Mais il n'y a pas que ça, et en même temps, c'est pas simplement, parce que j'allais dire, tout ça, il existe une sociologie des pratiques de consommation. Sauf que quand on est dans ces registres-là, on n'est pas dans des analyses sociologiques de ces pratiques de consommation. Hein, puisqu'en réalité, en fait, la plupart de ces articles, c'est une approche extrêmement psychologisante, hein, où les pratiques sont ramenées à des traits de caractère. Alors... j'ai rien contre la psychologie, mais voilà, d'un point de vue sociologique, j'ai des difficultés, comme mes collègues, à comprendre l'explication d'un certain nombre de pratiques sociales qui sont ramenées ici, dans ces articles-là, hein, à des traits purement psychologiques, et de, hein, pas par des psychologues, hein, parce que c'est assez caricaturé et caricatural. Ensuite, sur la question de la gentrification, plusieurs choses. D'abord, par rapport à ce qui a été dit sur les Batignolles comme pour le Bas-Montreuil, on montre une diversité, effectivement, de profils sociaux, mais en même temps, c'est une diversité relative. On n'a pas, dans ces populations de gentrifieurs, l'ensemble des catégories sociales de la société française. Donc on n'est pas non plus dans du tout et du n'importe quoi. Et qu'il y ait des différenciations effectivement entre un cadre de la finance ou de l'immobilier ou un artiste, hein, bon, effectivement, on n'est pas exactement, hein, mais on n'est pas, hein, quand on parle de gentrifieurs, on ne parle pas d'agriculteurs, d'ouvriers, etc. Je reviens parce que c'était présenté toutes les catégories sociales, non pas toutes les catégories sociales. C'est quand même, effectivement, des fractions différenciées qui appartiennent pas au milieu populaire, hein, d'Olivier Schwartz, mais qui sont effectivement entre les classes entre ces classes populaires et les classes supérieures. Ensuite, sur la gentrification, quelle est ma définition de la gentrification, la question piège, je veux dire deux, trois choses par rapport à ça. Et je vous renvoie, si ça intéresse un certain nombre d'entre vous ici, à l'éditorial qu'on a fait avec Catherine Bidou dans le numéro d'Espace et Société sur la gentrification urbaine. Pour faire simple ici, il y a en quelque sorte deux approches de la gentrification. Une première approche de la gentrification qui va prendre ce terme dans le sens originel du terme, c'est-à-dire celui qui a été défini par Ruddlas en 1963. Ici, la définition est claire, précise. D'accord ? La gentrification, c'est le remplacement de couches populaires par des couches moyennes et supérieures qui vont s'installer dans des quartiers anciens de centre-ville, réhabiliter le bâtiment et donc transformer aussi l'image, etc., etc. Ça, c'est un renouvellement à l'échelle d'un quartier qui correspond à la substitution d'une catégorie de population par une autre. Voilà. qui a été assez longuement, assez longtemps, j'allais dire, la définition estampillée de la gentrification, et qui, même si le terme n'était pas toujours effectivement utilisé dans les travaux français, a été ce qu'ont étudié les sociologues français. Tous les travaux, vous avez cité les miens, merci, ma thèse, mais un peu avant ma thèse, dans le programme d'observation du changement social et culturel, ceux qui ont étudié Bernard Bensoussan sur la Croix-Rousse, ceux qui ont étudié sur le 14e arrondissement, Claverie et de Merzay, etc., c'est des phénomènes de gentrification au sens de rue de glace. Voilà, Henri Coin, changement, rénovation urbaine et changement social, etc. Bon, donc ça, c'est la gentrification. Voilà. Et puis, avec le temps, puisque le phénomène, en quelque sorte, s'est un peu diffusé, etc., on a une extension de cette notion de gentrification. Cette notion de gentrification, dans certains travaux, elle n'est plus limitée à ce phénomène de renouvellement social et symbolique, et en même temps, en termes de bâti, à l'échelle d'un quartier, ça devient quelque chose qui peut être pensé à des échelles plus larges, qui ne concerne plus seulement les quartiers anciens centraux, et qui concerne éventuellement d'autres catégories de population. Donc on a une extension de cette notion de gentrification. Et il y a débat là-dessus. Et si vous prenez ce numéro d'Espace et Société, on voit qu'il y a des gens qui sont... pour l'extension, d'autres pas. Alain Bourdin est contre, d'autres collègues sont pour, etc. Alors, si vous me demandez ma situation, finalement, elle est dans l'éditorial que j'ai écrit avec Catherine Bidou, et donc, du coup, finalement, dans la composition du numéro, mais voilà ce que je dirais. La force, à mon avis, du concept, il est dans la définition qu'on donne rue de glace, qui correspond à une gamme précise, effectivement, de situations et de processus de transformation. Il n'empêche qu'il y a quand même un certain nombre d'avantages à l'extension du phénomène. Puisque, je vais prendre un exemple concret, puisqu'en réalité, par exemple, on associe aujourd'hui, on ne parle plus de processus de renouvellement à l'échelle d'un quartier, mais on va parler, par exemple, de politique de gentrification. Il y a des politiques de gentrification. Max Rousseau, quand il étudie Roubaix ou Sheffield, il étudie les politiques de gentrification qui sont mises en œuvre par les municipalités pour faire revenir dans leur ville ce que Florida appellerait la classe créative, ou pour faire venir des étudiants, ça dépend si on a Sheffield ou... Donc il y a des politiques de gentrification. Clairement, chez Glass, il n'y a pas de question de politique de gentrification, on n'est pas du tout là-dessus. Est-ce qu'il y a un intérêt quand même à articuler les deux ? Je vais vous prendre un exemple. Voilà. Alors, il faut être un peu, excusez-moi, je sais qu'il y a beaucoup qui connaissent, il faut être un petit peu lyonnais, parce que ça va renvoyer à la géographie sociale lyonnaise. Prenons un cas de figure qui est le quartier de la Guillotière à Lyon. Pour ceux qui connaissent, quartier historiquement populaire, entre guillemets multi-ethnique, On peut... jusqu'à un certain point, faire une analyse de la gentrification de ce quartier en prenant en quelque sorte la grille d'analyse de rue de glace et en l'analysant comme un processus de changement social avec l'arrivée de populations qui vont venir là pour tout ce que montre tout un ensemble de la littérature sur les quartiers, sur la gentrification, être au contact de ce milieu populaire, immigré, multiculturel, y avoir un certain type de commerce, etc., etc. Ça fonctionne pour comprendre un certain nombre de choses. Bien. Sauf que quand même, ce quartier, la Guillotière, il n'est pas n'importe où. Il est à côté de ce qui s'appelle maintenant, à Lyon, les Berges du Rhône. Les Berges du Rhône qui ont été réaménagées, c'était en fait avant d'anciens parkings, qui ont été réaménagés par la municipalité, qui ont créé cet espace, donc ces Berges du Rhône, qui sont des espaces aménagés sur lesquels on peut venir faire son jogging, dans lesquels il y a tout un ensemble de péniches, bars, restaurants, etc., sur lesquels vous avez du mobilier urbain qui permet de venir avec votre ordinateur portable travailler, etc. Et là, vous ne pouvez pas dissocier l'installation d'un certain nombre de ces ménages de classe moyenne qui vont s'installer dans ce quartier de la Guillotière, de la proximité de ces Berges du Rhône, Ils ne sont pas simplement là pour le commerce ethnique qui est dans telle rue de la Guillotière. Ils sont aussi là parce que c'est effectivement eux qui vont aller faire leur jogging sur les berges du Rhône, qui vont s'installer le matin dans ces aménagements-là, qui vont fréquenter le soir les péniches, etc. Et donc il y a un lien structurel, d'accord, entre ces logiques habitantes, ça renvoie aussi à une question qui est évoquée, et ces politiques qui sont des politiques de gentrification. Donc voilà, c'est pour ça que ma position, hein, elle est, personnellement, je serais plutôt pour rester sur une définition plutôt stricte de la gentrification, mais je pense qu'effectivement, à segmenter finalement les choses, on perd les liens structurels qui articulent ces mouvements-là avec ces politiques-là. Voilà. Donc je pense que ça a aussi un intérêt, et qu'analyser cette gentrification uniquement sous l'angle du regard de la transformation socio-démographique, etc., d'un quartier, c'est passer à côté voilà. Alors, pour finir sur ce point-là, je pense qu'inversement, il y a des usages aujourd'hui de la gentrification, qui va d'une extension plus exactement de cet usage, qui moi me paraît complètement absurde. Voilà, je l'avais dit il y a déjà très longtemps, dans un séminaire ou un colloque, voilà, il suffit que trois Parisiens s'installent dans une petite île bretonne et c'est la gentrification de l'île de machin. Non.
Voilà.
Il faut arrêter. Voilà. Donc effectivement, il y a une tendance à une extension incontrôlée de la gentrification. Voilà. Et on en parlait, je ne sais plus avec qui. Moi, j'ai beaucoup de mal, par exemple, avec le terme de gentrification rurale. Voilà. Pour moi, c'est un non-sens, par rapport, en tout cas, effectivement, à la définition qu'en donne Ruglias. Alors, pour rester juste un instant encore sur cette question de la gentrification et la question de la mesure, la mesure, elle est en particulier, enfin assez classiquement, dans les travaux sur la gentrification urbaine, elle est à travers l'analyse des propriétés sociales et des caractéristiques sociales des individus qui, entre guillemets, gentrifient ces lieux. Et là, certes, dans l'ouvrage, on est plutôt sur des approches qualitatives, mais si on regarde les encadrés, par exemple, sur le Bas-Montreuil, l'encadré dans notre chapitre qui présente ces deux quartiers, dans leur gentrification, il y a tout un ensemble de données qui sont en fait ce que font classiquement les collègues quand ils analysent les processus de gentrification, qui est en fait à partir des recensements de l'INSEE, regarder l'évolution présence des différentes catégories sociales et notamment de ceux qui sont liés à ces gentrifieurs. Et puis la dernière chose sur la question de la race et ces bobos blancs, voilà. Alors, c'est vrai que dans ces quartiers gentrifiés, en tout cas, ce qui n'est pas vrai de tous les quartiers en cours de gentrification, il y a d'autres collègues qui ont travaillé sur d'autres types de quartiers où je pense la question raciale était plus présente. Là, effectivement, elle n'apparaissait pas de façon structurante dans les entretiens, mais je ne crois pas que ça doit conduire en quelque sorte à essayer d'articuler ou d'opposer d'un côté ce qui serait le bobo comme figure blanc opposé aux populations immigrées, étrangères, etc. Voilà. Encore une fois, cette catégorie bobo, et même celle qu'elle désigne plus exactement, c'est une partie de la société française. D'accord. Je rappelle d'ailleurs ici, parce que là aussi, que si on regarde justement où se situe de façon plus large ce qu'on appelle les classes moyennes, et là aussi, certains ont des difficultés à les définir, c'est pas dans les quartiers gentrifiés, c'est dans le périurbain. C'est là où elles se situent. Voilà. Et donc, pour revenir à cette histoire de blanc, population immigrée, je pense qu'il y a, voilà. Il n'y a pas de recouvrement, il n'y a pas d'opposition, etc. Et là encore, le croisement de la question raciale et la question sociale, elle ne pourrait pas se limiter dans ce duo-là. Voilà. Là aussi, je ne dis pas ce que j'en pense ou pas par rapport à ça, mais pour revenir sur cette figure blanche, il y a tout un ensemble de travaux en sociologie qui se réfèrent à d'autres types de contextes, à d'autres types de populations et qui vont mobiliser par exemple français de souche ou etc. On n'est pas dans cette figure du bobo. Voilà.